Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois Fabrice d'Almeida. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du nazisme, directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous avez écrit notamment « La vie mondaine sous le nazisme » paru aux éditions Perrin. Nous entamons un deuxième portrait des personnalités du Troisième Reich et vous avez choisi Hermann Göring. Quelles sont les origines, Fabrice, d'Hermann Göring ?
Hermann Göring, c'est un Bavarois. Il est né en 1893. Sa mère a eu d'abord un premier mari, roturier, et ensuite elle s'est remariée avec un aristocrate qui l'a adopté. Et donc, on peut dire qu'il est de naissance à moitié noble, mais qu'en réalité, de milieu, il est parfaitement aristocratique. C'est ce qui explique évidemment qu'il ait choisi, jeune, d'embrasser la carrière des armes et qu'il ait fait une école de cadets, qu'il ait connu un entraînement et qu'ensuite, il soit rentré dans l'armée. Et au fond, sa grande expérience, son expérience fondatrice, va se dérouler pendant la Première Guerre mondiale. On oublie souvent que Göring, avant d'être le chef nazi, est un as de la Première Guerre mondiale. Il est le successeur du Baron Rouge, hein, de von Richthofen, à la tête d'une des plus prestigieuses escadrilles allemandes, et il va en être l'homme le plus médaillé.
C'était un homme courageux ?
Très courageux. On dit même une tête brûlée. Une tête brûlée, il va au combat, 22 victoires sèches. Il continue à se battre dans le combat aérien avec la dimension un peu chevaleresque que ce combat a à l'époque, ce qui fait qu'il est déjà une célébrité au moment de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des articles de presse qui parlent des exploits du lieutenant Göring. Et au fond, au lendemain de la guerre, on a un peu le sentiment que cette atmosphère-là lui manque. Et c'est ce qui explique qu'il va s'engager dans une entreprise de pilote au Danemark, où il va, là encore, prendre des risques effrénés, s'envoler des soirs de tempête, traverser des orages, faire des livraisons, et notamment pour un personnage qui s'appelle le comte von Kanzow et qui a une sœur qui va être son premier amour au fond et peut-être la femme de sa vie. C'est un peu paradoxal dit comme ça puisqu'après il va se remarier, mais donc cette Karin von Kanzow va être sa compagne, va revenir avec lui en Allemagne et au fond il arrive en Allemagne juste à temps pour faire partie des premiers à s'investir très fortement dans le national-socialisme. Et Hitler va lui confier la formation de la SA, c'est-à-dire l'entraînement militaire de la branche armée du mouvement.
Ceci très rapidement ?
Très rapidement, puisque dès 1922, il en est le responsable. Et c'est ce qui explique qu'au moment du putsch de la brasserie, en 1923, eh bien, Göring fait partie de ceux qui marchent au premier rang et qui vont recevoir une balle. Il est blessé à la jambe. Résultat, il s'enfuit, soutenu par quelques camarades. Il va passer la frontière et il va aller en exil en Autriche. Il reviendra en 1927 seulement. Donc, il faut imaginer hein, ce personnage qui est assez haut en couleur. Assez haut en couleur, en même temps, il y a quelque chose d'assez comique, puisque dans ses débuts en Bavière, à Munich, en 1922-1923, il est entretenu par le mari de sa compagne, c'est-à-dire par le comte von Kanzow, qui le finance. Sa voiture n'est pas la sienne, en fait, c'est la voiture de sa femme, c'est la maison de sa femme. Donc il y a un petit côté comme ça qui montre la nécessité où il se trouve de faire de la politique, pas seulement pour les grands idéaux, mais aussi peut-être pour y trouver le moyen, comme dans une entreprise, de sa subsistance et de son existence.
C'est un homme qui recherche le pouvoir ou...
Oui, c'est un homme qui a une ambition extrêmement forte. Alors, est-ce qu'il recherche le pouvoir ou est-ce qu'il recherche les honneurs ? C'est un peu l'ambiguïté avec lui. C'est-à-dire que très vite, il veut être parlementaire. Très vite, il veut que le parti soit un parti qui soit capable de gouverner. C'est peut-être ce qui fait sa différence avec les frères Strasser, qui ont une option révolutionnaire. Ils sont persuadés qu'il n'y a que par la prise des armes et en s'appuyant sur le peuple qu'on va y arriver. Lui, non. Lui, il est persuadé qu'il y a une possibilité pour le parti nazi de s'implanter dans le Parlement et d'accéder au pouvoir en bousculant un petit peu les choses. C'est-à-dire en faisant comprendre aux élites que le parti est la seule solution pour avoir un gouvernement stable et fiable en Allemagne. Et c'est ce qui explique qu'il va être, à partir de 1932, il va être un des principaux, enfin même à partir de 1928, c'est la première fois qu'il est élu, il est au Parlement, il joue déjà un rôle pour implanter le parti à Berlin. Il invite beaucoup d'artistes, d'hommes de presse, de journalistes, d'écrivains dans son petit appartement. Il n'a qu'un trois pièces. Hein, avec, on se moque d'ailleurs de lui en disant qu'il n'a qu'un tableau de maître, ce qui donne une échelle, puisque vous savez que sa collection à la fin de la guerre représente 2500 œuvres d'art. En 1928, il y en a une. Ça laisse perplexe sur ce qui va se passer dans l'intervalle. Donc, Göring, c'est ça, et c'est en même temps, tout de suite, il demande être le responsable du groupe parlementaire du parti à la Chambre, et puis ensuite être le président du Reichstag, ce qu'il va être à partir de 1932, et qui va expliquer que c'est lui qui va prendre les mesures et soutenir les mesures au moment de l'incendie du Reichstag, les mesures de répression extrêmement violentes contre les communistes et l'extrême gauche allemande.
Les événements, en quelque sorte, la voix parlementaire lui donne raison, ce qui en fait un proche d'Hitler. On se doute que lui, Göring, est proche d'Hitler. Et est-ce que Hitler est proche de lui ?
Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a des témoignages directs et indirects. Alors, les témoignages directs, c'est qu'on peut regarder le comportement de Göring. Göring cherche en permanence à être près de Hitler. Hitler fait une maison à l'Obersalzberg, hein, c'est-à-dire dans les Alpes bavaroises, le fameux Berghof, où il va en vacances. Göring se construit une maison juste à côté. Hitler s'installe à Berlin, Göring vient à Berlin. Hitler, vous voyez, à chaque étape, comme ça, il le suit. C'est un courtisan en ce sens, et en même temps, il va être là, à côté d'Hitler, au moment où se jouent toutes les décisions cruciales. Le putsch de la braderie, il est là. L'élimination de Röhm en juin 1934, il est là et il fait même partie de ceux qui sont parmi les porteurs d'armes. En 1938, au moment de la nuit des longs couteaux, au moment de la nuit de cristal, pardon, il est là, c'est-à-dire le grand pogrom de 1938, juif en novembre 1938, il est là, il est présent. Évidemment, on a toujours tendance à chercher en lui une sorte de bonhomme un peu calme, qui réussirait à tempérer un Hitler qui serait une sorte d'hystérique. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Il y a un accord de fond entre les deux hommes sur ce qui sera bon pour l'Allemagne. Il est parfaitement d'accord sur la politique antisémite, il est parfaitement d'accord sur la politique de Grand Reich, et il est parfaitement d'accord sur la politique anticommuniste. Donc, sur l'essentiel, ils marchent main dans la main. En revanche, il y a toujours une tension, parce que Hitler a toujours une espèce de crainte que quelqu'un essaie de le dépasser. Göring réussit à le rassurer assez longtemps, mais à la fin, à l'extrême fin du régime, vous savez que Hitler va le désavouer en avril 1945, va même le faire arrêter. Il a donné l'ordre de l'exécuter parce qu'il pense qu'il est en train de faire des tractations avec les alliés pour son propre compte. Donc vous voyez que cette confiance qui, dans la durée, a existé, eh bien, elle devait être à chaque fois manifestée, remise en cause. Et peut-être que Hitler a compris ce qui fait marcher Göring, c'est-à-dire les honneurs. Mmh. Et il va lui donner un nombre d'avantages et une position inouïe dans un régime politique. Imaginez, en 1933, il est donc président de la Chambre des députés. Il va être ensuite ministre-président de Prusse, c'est-à-dire responsable de la Prusse. En tant que responsable de la Prusse, il va aussi être ministre de l'Intérieur de Prusse. En tant que ministre de l'Intérieur de Prusse, il crée la Gestapo. Donc, il va avoir un pouvoir énorme en matière de police. En tant que président de Prusse, il a toute la scène culturelle berlinoise. Il va recevoir des invités dans son manoir de Karin Hall. Bref, il a tout. J'allais dire, si on veut descendre au plus petit de ses pouvoirs, il est grand veneur, maître des forêts. Il est responsable du plan de 4 ans, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de toute l'industrie allemande à partir de 1938.
Il apparaît comme un industriel, businessman corrompu et avide de richesses.
Oui, je crois que c'est une formule qui résume bien cette dimension. Il a une soif de gagner. Ouais. De l'espace, de gagner toujours plus. Il organise la production à son profit, c'est-à-dire que pour que les entreprises obtiennent les marchés, puisque c'est lui, comme responsable du plan de 4 ans, qui fait la planification pour toute l'industrie d'armement, par exemple. Donc, c'est lui qui va attribuer les marchés. Et il est clair qu'il a obtenu des compensations assez importantes. On se moque beaucoup de lui pour une petite réunion qui a lieu en novembre 1923, juste après la nuit de cristal. Il réunit tous les principaux chefs de service. Et donc, on réfléchit à ce qu'on va faire. Donc, il décide que les Juifs vont payer une amende d'1 milliard, parce que s'ils ont été victimes d'un pogrom, c'est parce qu'ils sèment du désordre. Donc, à eux de payer 1 milliard d'indemnités. Les magasins juifs ne seront pas remboursés des dégâts subis, sauf s'ils sont cédés à des propriétaires allemands, auquel cas on indemnisera les Allemands. voyez le mécanisme. Et puis, dans cette conversation-là, tout d'un coup, on parle d'une bijouterie à Berlin qui a été pillée. Et là, tout d'un coup, Göring se tourne vers le responsable de la sécurité du Reich, le ministre de l'Intérieur. Il se tourne aussi vers Heydrich, qui est présent là, hein, qui est le chef de toute la police politique du Reich. Et il leur dit, ces bijoux, vous allez me les trouver. Et il le dit comme ça, vous allez me les apporter. Et au procès de Nuremberg, l'avocat général, le procureur, lui dit, mais c'est qui, moi ? Alors là, Göring tout de suite se réveille. Ce n'était pas moi en tant que personne, évidemment. C'était moi en tant que ministre de l'Intérieur. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, puisque nous savons tous que circulent en Allemagne, dès les années 30, des idées comme lesquelles, selon lesquelles Göring est à vide de diamants et de bijoux. On dit qu'il a une formidable collection de bijoux pour sa femme.
Alors, en quoi est-il un exemple pour la propagande, Göring ?
Alors, il est un exemple parce que d'abord, c'est le héros de la Première Guerre mondiale. Ensuite, c'est l'homme qui est censé restructurer complètement l'aviation allemande. Vous vous souvenez que l'armée allemande avait été totalement démantelée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Eh bien, il fait partie de ceux qui vont réorganiser la Luftwaffe et il a toujours le sens des formules. Il dit il faudra m'appeler, on pourrait m'appeler Dupont, hein, si l'Allemagne est un jour bombardée, dit-il en 1940. Et 3 mois plus tard, évidemment, les villes allemandes sont bombardées et on l'appellera Dupont. Mais il a toujours le sens des formules comme ça pour attirer l'attention vers lui. Et puis, il a, pour l'époque, peut-être pris une avance dans ce qui est la communication un peu people. Il fait un grand mariage en 1935 avec une actrice de théâtre. Et le mariage va être l'événement mondain de la saison. Un dîner avec près de 600 personnes, des aristocrates, des grandes personnalités venues du monde entier. Il reçoit les hommages, c'est filmé, ça passe dans les actualités filmées. Sa femme, Amy, hein, Amy Göring, va être la première dame du Reich. Hitler étant célibataire, c'est sa femme qui reçoit dans les grandes manifestations. Donc il y a ce côté un petit peu presse, grand public, qui le rend très visible. Et comme en plus, il va lancer tout un tas d'initiatives et participer pour les soupes populaires, pour les soupes d'hiver. Hein, c'est le fond d'hiver. C'est comme ça que ça s'appelle, donc pour aider les gens au moment de la saison froide. Donc il y a toute cette dimension-là qui est très présente. Le héros, le social, celui qui aurait la vie de famille idéale et celui qui serait, c'est le thème qu'utilise Stefan Mertens, qui a été un de ses biographes, qui serait le paladin du Führer, et il se définira souvent comme le dernier homme de la Renaissance, le dernier condottiere, hein, celui qui se met au service de quelqu'un qui porte un message plus important que lui, une sorte d'homme de guerre qui saurait transformer l'Allemagne.
Dauphin d'Hitler, Göring ?
Alors, dauphin, hein, avec cette limite, quand même, que donc ça, c'est dauphin dans la loi. C'est-à-dire qu'en cas d'absence ou de décès de Hitler, Göring reprendrait instantanément tous ses pouvoirs. Ça, jusqu'en avril 45, où il est désavoué et où Hitler va mettre un autre nom qui sera celui de Goebbels d'abord et puis ensuite celui de Dönitz. Donc c'est une situation de dauphin et en même temps d'homme réel de pouvoir. C'est pas comme un prince qui se préparerait à gouverner. C'est un homme qui est déjà aux affaires et qui est extrêmement, extrêmement puissant. Un mot quand même, il faut se rendre compte que toutes les têtes couronnées d'Europe ont rencontré Göring. Qu'une bonne partie de ceux qui ont visité l'Allemagne dans les années 30 ont atterri dans sa villa de Karinhall, hein, dans son espèce de domaine forestier, ont été avec lui chassés, car Göring, l'autre aspect qui le rend très populaire en Allemagne, c'est qu'il est celui qui a fait la loi sur la chasse la plus libérale en 1934, et qui est une loi qui est enviée par toutes les sociétés de chasse internationales. Elle autorise le plus largement le droit de suite du gibier, elle autorise le plus largement des grandes battues avec des chasses solennelles, etc. Et donc, il a ravivé les sociétés de chasse. Et donc, ça aussi, ça lui donne une espèce de côté un peu bon enfant, un peu celui qui sait bien vivre, un côté presque pas chasse aristocratique, mais plutôt chasse populaire. Hein, celui qui permet aux petits d'essayer de s'en sortir et d'avoir ce loisir. Pour lui, c'est un sport. Hein. Je vous rappelle qu'il garde précieusement les décomptes de ses chasses, parce qu'on classe selon les gibiers abattus, selon la durée de la chasse, on classe en points. Et donc, Göring garde systématiquement ses brevets de points pour ses grandes chasses.
Fabrice d'Almeida, ce sera ma dernière question. Quelle fut la place de Göring dans le génocide?
Göring, c'est vraiment un de ceux qui va défendre la politique nazie d'extermination. Ce qu'on a tendance à oublier, il essaiera lui de se défendre en disant qu'il n'était pas, par exemple, dans certaines conférences sur le sujet. Il a était en pointe dans l'organisation et il voulait même être celui qui aurait la mainmise complète sur le processus. Or, en fait, il va perdre dans cette espèce de concurrence avec la SS, il va perdre et c'est la SS qui va obtenir d'avoir tout le processus d'extermination. Mais il a un représentant de son ministère, évidemment, dans toutes les grandes conférences et notamment la conférence de Wannsee. Donc, il est parfaitement au courant et il fait partie de ceux qui ont soutenu cette politique de liquidation systématique des Juifs, des Tziganes et de tout ce qui pouvait leur paraître une opposition raciale ou politique.
Eh bien, Fabrice d'Almeida, merci. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, La vie mondaine sous le nazisme, paru aux éditions Perrin. Et nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau portrait. Merci.